Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ah, vous les adorez, les BCG. Je ne suis pas un PCBG, je ne le serai jamais. Je dois faire le beauf de service parce que vous aimez que les beaufs. Je ne suis pas aimé, c'est pas grave.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit sur RMC en direct, également sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot, l'After, votre espace de liberté, à vous les supporters, au 32-16, on vous attend nombreux ce soir avec Florent Gautreau qui est là, salut Florent.
Salut à tous.
Daniel Riello est là également, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Voilà, Florent et Daniel qui hier ont prouvé que l'After était un espace de liberté.
Bien sûr. Avec des opinions différentes, tu veux dire.
Exactement.
Oui. Et d'ailleurs, parce que j'ai du mal à comprendre quand les gens disent ouais, machin, si, mais
tu peux détailler parce que ouais, machin, si, machin.
C'est pas clair.
C'est,
bon, c'est vrai que c'était pas très clair.
Ouais.
Mais quand on reproche à quelqu'un son opinion, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement, notamment sur les réseaux, je dis mais attendez, non seulement vous êtes déjà d'une libre de pas écouter, mais deux, si dans l'émission il y a quelqu'un qui a un avis divergent, ben, soutenez-le. Soutenez Flo Gautreau et arrêtez de me les briser à moi. C'est ça qui est important, c'est l'histoire de l'after. C'est très étonnant.
Mais j'ai très peur. On te les brise pas à toi.
Mais j'ai très peur. J'ai très peur de la nouvelle génération qui finalement ne veut plus rien entendre. A du mal avec les critiques. A du mal.
Je pense que Daniel, ils ont du mal sur un truc, si je me permets.
Ils ont du mal avec beaucoup de choses.
Non, ils ont du mal avec le fait que tu n'ailles pas sur quelques bémols de ton côté.
J'ai souvent été spécialiste et tu m'as pris pour un musicien.
J'étais spécialiste. Non, je te prends pour quelqu'un d'intelligent qui est capable de faire acte de contrition.
Mais c'est peut-être ça
qui te reproche.
Mais peut-être, mais ils sont libres de le faire. Ils sont libres d'être de ton avis ou du mien. Il n'y a pas de problème.
Par exemple,
c'est ça qui est important.
Le seul truc qu'on a retenu.
Daniel, il y a plein de gens qui ont raté des matchs. Parfois, dans leur vie, tu en as réussi plein.
Le seul truc qu'on a retenu, c'est ça. Écoutez quand même.
C'est la pub.
Si on gagne la Ligue des Champions, je me fais cette coupe, tiens, si tu veux. D'accord. Et c'était important ça hier. J'ai l'impression que beaucoup ont retenu ça hier.
Oui, beaucoup ont retenu ça. Toute la journée, on m'a envoyé la fameuse photo qui devient une photo
virale.
Écoute, la vérité, c'est que je souhaite tellement qu'on gagne la Ligue des Champions que franchement, ça me ferait plaisir.
Non, mais tu vas pas le faire.
Bon, pourquoi pas? Ça peut se porter. Moi, franchement, quand je vois la photo,
j'en appelle à tous les coiffeurs capables d'installer des tresses sur la tête de Daniel. Manifestez-vous.
Alors, ne t'inquiète pas que j'ai reçu déjà des messages d'amis prêts à m'emmener dans le salon de coiffeur qui va bien.
Mais la question, Daniel, c'est est-ce que cette coupe-là ne peut pas t'empêcher de faire de bonnes analyses, comme tu as dit qu'elle pouvait empêcher Barcola d'être un bon joueur de foot?
Non. Tu vois, le problème, c'est que tu parles de bémol, Flo, et c'est que tu reviens sans arrêt à la charge et tout, et que toi qui te dis roi du bémol, de la nuance, de l'intelligence, tu transformes mes propos. Il y a une différence entre
ces deux. Vas-y, dis-moi. Non, mais sur la queue.
Avant qu'on reparte bien en tête,
la coiffure, pourquoi pas? Ça peut me faire marrer. Oui.
J'ai pas fait de sommaire, j'ai rien fait encore.
Après,
j'en allais direct.
Ouais, Eric Dimeco a bien mangé un rat un jour pour un joueur de foot.
C'est vrai.
Il l'a vraiment mangé, en fait.
Nos
yeux, là.
Et c'est ça qui m'inquiète un peu.
Il était préparé.
C'est ça qui m'inquiète un peu dans la nouvelle génération Twitter. C'est que Eric, je pense qu'il ne regrette pas un mot de ce qu'il a dit, parce que lui, c'est quelqu'un qui assume ses opinions. Il n'a aucun problème avec ça. Et qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit ce qu'il a dit à l'époque, je pense qu'il se fait pourrir, mais jusqu'à la mort du harcèlement sur les réseaux. À l'époque, c'était beaucoup moins virulent. Je pense même que ça devait être avant 2010. Donc, même pas.
Non, mais moi, par exemple, toi, j'ai dit que Nolan Roux pourrait peut-être être en équipe de France. Et en fait, je regrette un petit peu de l'avoir dit.
Non, je ne le regrette pas, parce que je pense qu'il avait beaucoup de qualité.
C'est marrant, tout le monde l'avait oublié, par contre.
Mais tu te trompes. Parce
je ne regrette pas de l'avoir dit.
Nolan Roux.
Je reconnais m'être trompé.
Non, c'est lui qui reconnaît. Dans une interview que j'avais beaucoup aimé de sa part, que justement, il n'était pas fait pour ça. Qu'il n'était pas fait pour l'exigence du très haut niveau parce qu'il n'avait pas ça en lui. Mais quand en Ligue 2, j'imagine que tu le découvres, notamment quand il est à Brest, à la fin des années 2000, c'est un très, très bon attaquant.
Ah oui, bien sûr.
Mais lui n'a peut-être pas fait les efforts, n'a peut-être pas voulu aller au-delà de. On oublie que le très haut niveau, c'est une affaire de mental aussi. Principalement d'ailleurs même.
Bon, l'événement ce soir dans l'after.
Un bon joueur, je ne crois pas que tu te sois gouré à cette époque-là.
C'est la présence parmi nous dans quelques instants, Daniel, de Sébastien Bassong. Ah. Il arrive, l'ancien joueur de Metz, Newcastle, Tottenham, entre autres. Aujourd'hui, il est podcasteur. Il veut nous expliquer ce qu'il fait. Il était avec nous, notamment pendant la CAN il y a quelques semaines, Sébastien. L'occasion avec lui de parler de foot anglais, puisqu'il vit toujours sur place. Ça tombe bien. C'est au moment où aucun club de première ligue n'est en demi-finale de la Ligue des Champions qu'il vient nous voir. Et puis, Julien Laurence nous rejoindra tout à l'heure à 23h. Donc, une de foot anglais de 23h à minuit.
Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé à cette heure-là de foot européen. Ce soir, il y a un très bon Arsenal-Chelsea
Et oui, 1-0 pour Arsenal d'ailleurs.
Ah ouais, je regarde le match et quand je vois les joueurs qu'il y a des deux côtés et ses effectifs surchargés, notamment à Chelsea, je me dis qu'il y a, deux, trois mecs à récupérer qui feraient beaucoup de bien. Oh, j'ai cru qu'il allait avoir le deuxième but. Qui ferait beaucoup de bien, notamment au milieu du PSG.
D'ici 23h, vous aurez également les infos nécessaires à la veille des matchs de Ligue 1 de demain soir. On entendra Jean-Louis Gasset, on parlera de Nantes, Florent veut en parler. Et puis Bordeaux sera aussi au programme, comme promis hier.
Notre invité est arrivé.
Ah, il est là, on verra.
Fracassante.
On verra à Bordeaux si le papier toilette est revenu et si les tondeuses également. Et puis la Ligue 2, avant qu'on accueille notre invité. Bah, la Ligue 2.
C'est Bordeaux, tu viens d'en parler.
Bah ouais, Bordeaux qui reçoit Dunkerque, Nicolas Paul-Orsi. Salut Nico. Bon,
bon, salut les gars, c'est la régalade ce soir à Bordeaux. Hein. 2-0, 65 minutes de jeu.
Peut-être 3 là.
Ah oui. Et non, alors on a tiré à côté, il y avait une position de hors-jeu, mais deux très jolis buts. Un but de David Potnik, reprise de volée sur un centre de Westbeek et un ballon piqué de David Tachvili, vraiment magnifique. Ça joue plutôt bien à Bordeaux ce soir. Bordeaux 14e face à Dunkerque 15e. Bordeaux qui peut se donner de l'air au niveau du maintien. On en est là au Girondin. On y reviendra tout à l'heure, Gilbert, mais c'est vrai que c'est assez fou ce qui se passe à Bordeaux. 65
et
minutes de jeu, 2-0.
On voit pas bien comment ça pourrait s'arranger.
Ah bah ouais.
Quand il n'y a plus de thunes pour payer une tondeuse, un tuyau et du PQ dans les chiottes, c'est que vraiment t'es à la ramasse.
Mais bon, si pour l'instant, les joueurs sont payés.
Boîtes de com, voilà. Ça va.
Pour l'instant, les joueurs sont payés.
On en parlera tout à l'heure avec toi. Auxerre Laval, Frédéric Joly, bonsoir.
Pour Chelsea, pardon,
bonsoir, mais messieurs.
Pour Arsenal.
Salut Fred.
Salut tout le monde. 66 minutes de jeu. À Auxerre, tout va bien. On a des papiers toilettes dans les WC et des tuyaux pour arroser la pelouse. Et tout va bien pour les Auxerrois qui mènent 3-1-0 face à cette équipe de Laval qui va vraiment beaucoup moins bien. Bobichon a été expulsé du côté de Laval, ils sont donc réduits à 10. C'est en première période que les Bourguignons ont fait la différence. Lomami contre son camp, puis le doublé de Haye. Sinayoko vient de toucher la barre transversale. Joly a frappé fort, sorti difficilement par Samassa du cadre. Autant dire que les Bourguignons déroulent et que la JOCR mène logiquement 3-0
et que ça monte très tranquillement.
Oh, c'est encore, on va pas dire ça.
Mais attention, ce qui reste sur des performances effectivement juste avant qui était pas
pris,
le...
Ils ont pris deux fessées hein, quand même.
Ouais. C'était un peu inquiétant. C'est plutôt que Laval est en déliquescence là.
Aussi, et ils avaient besoin de se rassurer. Et Pélissier et Joubal ont dit voilà, on s'est parlé.
Je veux le retour d'Auxerre et Saint-Etienne.
Ah oui, ça risque d'être la fête. Du monde hein, ce soir d'ailleurs à la Baie des Champs. 16 698 spectateurs. C'est la fête. Le public a répondu présent et la JOC a répondu puisqu'il mène 3-0.
Guingamp, Xavier Grimaud.
Salut messieurs, salut à tous. Merci pour Angers, Daniel, pour accompagner.
Je suis désolé, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il faut bien choisir à un moment.
Oui, non, mais je comprends. Partout, en tout cas, entre Guingamp et le SCO, c'est Angers qui a ouvert le score grâce à Raoli Soa et l'égalisation de Baptiste Guillaume juste avant la pause. Les Angevins qui sont toujours deuxièmes, puisque Saint-Etienne est tenu en échec également ce soir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont tenir ? Les Verts, c'est vrai qu'ils tapent très fort derrière. Pour l'instant, ils ne font pas un match forcément formidable, les Angevins, et sont même plutôt dominés au point, on va dire, par une équipe de Guingamp qui s'accroche, mais qui est encore assez loin des places de barragistes et de la 5e place. Un partout entre Guingamp et le SCO, la 67e à Roudourou.
Et puis Edgar Grollo est là pour les autres matchs. Un petit point, y a-t-il eu des buts, Edgar ?
Salut tout le monde, ouais, ça bouge à l'instant à Bastia, 1-0 pour Bastia face à Concarneau, l'ouverture du score de Benjamin Santelli. Ça bouge aussi à QRM qui a réduit la marque face à Amiens, la réduction de l'écart, ça fait 3-2 pour Amiens face à QRM. Dans les autres matchs du soir, 1-0 pour Caen face à Annecy, 0-0 entre Grenoble et Saint-Etienne, 1-0 pour Rodez face au Paris FC, 1-0 pour Pau à 3 et 1-0 pour Valenciennes face à Ajaccio.
C'est la première fois qu'il est en studio avec nous, Edgar Grollo.
Surnommé Eddie Jackpot par Stephen Brun.
Mais du coup, il l'a gagné. S'il est là avec nous.
Okay, si c'est ça, gagner le gros lot, ouais.
Ouais. Autant qu'on est meilleur. Sébastien Bassong est là, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Salut. Salut, ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Bon, j'ai écouté ton podcast.
C'est vrai ?
Ouais.
Merci, enfin. Enfin, j'ai réussi à le faire écouter mon podcast.
Ah, franchement,
notre podcast, ouais. Notre podcast.
En plus, on va parler foot anglais avec toi tout à l'heure, mais bon, nous, les podcasts, évidemment, on suit ça de très près, parce que nous-mêmes, l'After, évidemment, on développe une stratégie de podcast depuis très longtemps. On a même été assez précurseurs en la matière. Mais là, vous avez un podcast, vous, super intéressant, parce qu'en fait, les gars, c'est la génération 86. En fait, c'était potes de tes potes de formation, quoi, en fait.
Ouais, c'est des potes de pré-formation. De pré-formation à l'INF Clairefontaine quand on est rentré.
Qui a Ricardo Farty, qu'on connaît bien ici.
Farty, Quentin Westberg.
Alias Q.
Alias Q, l'américain, El Professor, comme je l'appelle. Parce que, tu vois, c'est lui qui a les connaissances, c'est vrai. On l'appelle El Professor et Ricky. Tout le monde aime Ricky, parce que tout le monde aime Ricardo. C'est vrai. Donc, et moi, on m'appelle le dictateur, je ne sais pas pourquoi.
Pas, pas comprendre. Il y a mieux comme surnom, hein ? Il y a mieux comme surnom.
Non, ça, ça va, passe. Je... Non, ça passe. Ça va, je le vis bien. Je le vis bien.
Moi, que... moi, je préfère les despotes éclairés.
Ah, t'étais capitaine en plus, toi ?
Oui, j'étais capitaine. Et dans tous les cas, c'est... parce que c'est moi le host, en tous les cas. C'est moi
qui. C'est toi l'organisateur.
C'est moi l'organisateur. Donc, mais oui, le podcast, il est... je pense qu'il est bien pour les puristes et pour ceux qui aiment le foot. On en parle. On appelle ça la réunion de famille hebdomadaire. On parle, on est en.
Tu t'es inspiré de ce qui se fait en Angleterre où souvent les anciens joueurs, comme ça, organisent des discussions où ils refont un peu leur carrière, où ils parlent de thématiques particulières. Là, votre dernier podcast, vous parlez de la concurrence.
Ouais, on parlait de la concurrence.
Donc c'est pas mal parce que vous avez. C'est vraiment de l'échange de footeux, voilà, de l'inside de footballeur, quoi.
C'est l'inside de footballeur et on a essayé de mettre un format dans lequel on. Comme on est trois, on a beaucoup de contenu à trois. Et de temps en temps, on ramène un invité parce que je pense que les gens aiment beaucoup les invités et ça nous permet aussi de passer en mode.
L'autre jour, vous avez invité Villas. T'avais personne. Tu l'as appelé en dernière minute.
Non, Nico, c'est pas moi, c'est Ricardo qui l'a appelé. Nico, c'était intéressant. On essaie d'avoir des profils vraiment différents.
C'est marrant parce que c'est l'inverse, c'est que c'est les footballeurs qui invitent les journalistes.
Ouais. Parce que en fait, on a eu tout type vraiment d'invités, que ce soit entre des kinés, des ostéopathes, des entraîneurs. Des jeunes entraîneurs, des joueurs, la famille. On a eu nos enfants sur le podcast. On va faire peut-être à un moment donné nos femmes. On essaie de mêler tous les ingrédients, toutes les personnalités autour de la vie du footballeur parce qu'il y a un gros voile à lever un peu et on en parle. Et oui, je me suis assez inspiré de ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre.
En Angleterre, ouais.
Parce que je vis en Angleterre dans tous les cas.
En Angleterre, mais c'est marrant, ça m'a fait effectivement penser au programme auquel participait Thierry Henry, mais vous n'êtes qu'entre footballeurs là, dans le podcast, donc c'est encore particulier, je trouve. Mais vous arrivez à donner une liberté de ton quand même et à ne pas être trop formaté, parce qu'on se reproche parfois aux footeux, pendant leur carrière évidemment, c'est de parfois pas dire, de pas se lâcher, quoi.
Bah aujourd'hui, y a Quentin, il continue à jouer. Donc nous, Ricardo et moi, on est retraités. J'aime pas le terme retraité. On a arrêté le foot, on a changé de discipline parce que je déteste le terme retraité.
Pourquoi ?
Parce que le terme retraité, pour moi, inconsciemment, tu te reposes. Quand tu es retraité, psychologiquement, tu as l'impression et tu te dis « Ah, j'ai beaucoup travaillé, donc je peux me permettre de me reposer. »
Ah, tu es retraité du football parce que tu joues plus.
J'ai changé de discipline.
Ah, okay.
J'ai changé de discipline d'excellence.
Changé de travail.
C'est pas la même chose.
Mais c'est quoi ton travail aujourd'hui alors ?
Mon travail aujourd'hui, c'est coach de performance et à travers le développement personnel et professionnel. On va dire que je travaille les transitions. Et la transition, les gens ils pensent souvent que c'est quand est-ce que tu arrêtes un travail et tu recommences un autre. Non, si tu veux partir d'un point A pour arriver à un point B, tu dois changer ta mentalité, tu dois adopter une certaine mentalité. Et comme je suis j'aime beaucoup la performance, j'aime gagner, j'aime tout ce qui s'attrait au psychologique.
Oui, ça parle plus de mental que de technique, je trouve, dans votre podcast.
Oui, plus de mental que de technique. On va parler de technique à un moment donné quand on aura des invités. Mais je pense que c'est un dialogue et un langage qu'on entend un peu partout. Mais aujourd'hui, nous, on va donner nos introspections respectives. Parce qu'aujourd'hui, on a 37 ans. C'est plus facile de parler aujourd'hui. Donc, on essaye de ne pas se positionner en tant que grand frère d'honneur de leçon.
Vous vous rendez compte avec le recul de la fin de carrière que par exemple des choses que vous pensiez entre 20 et 25 ans vous les pensiez parce que par définition vous étiez jeune mais qu'avec le recul vous dites là on a peut-être fait des erreurs, on n'avait pas l'expérience d'eux et maintenant vous pouvez conseiller je sais pas, dans des choix de carrière, dans la façon d'aborder la compétition, dans la place qu'il faut avoir, j'en sais rien, sur le mental, l'hygiène de vie, ce genre de choses-là. Fait un peu office de conseil aussi.
Ça fait office de conseil. Et déjà, c'est une grande thérapie pour nous-mêmes. Parce qu'au final, se retrouver entre nous, on est amis depuis plus de 25 ans. On s'est connus, on avait 12 ans. Donc, on s'est suivis dans nos carrières respectives. On connaît nos caractères respectifs. On sait, aujourd'hui, quand je parle à Quentin, ou quand Quentin il me parle, Ricardo il me parle, je sais ce qui a manqué à Ricardo. Et aujourd'hui, quand on en parle entre nous, des fois, on a des petits...
Oui, il aurait dû rester à Strasbourg.
Mais tu sais ce qui est formidable ? Parce que ça me fait penser votre truc à ce que faisait en Italie, ce qu'il continue à faire, mais moins bien qu'à une époque, là, quand il y avait Vieri, Cassano, et il y en avait deux autres, j'ai oublié, Johan me corrigerait, mais bon. Et
Cassano, sur Twitch, il faisait ça. Ouais.
Cassano était peut-être le plus virulent de tous sur un tel joueur, il fait pas ci, il fait pas ça, alors que lui-même, qui était un joueur au potentiel énormissime, aurait pu avoir une carrière deux fois plus importante s'il avait fait gaffe à plein de choses. Et c'est marrant parce que quand tu l'écoutes, t'as envie de lui dire, mais putain, mais toi, tu faisais gaffe à rien du tout. T'étais un mec qui avait une vie dissolue, qui faisait attention à rien. Ouais, mais en fait, ça ne me gêne pas qu'il le dise. Toi, on pourrait très bien lui dire, mais ferme-la, tu faisais pas gaffe, toi. Mais en fait, comme il l'a vécu, ouais, et comme il sait quelles ont été les erreurs, en fait, ça me gêne pas. Je le trouve parfois, mais hyper virulent avec certains joueurs.
Mais je pense que ça fait partie de sa personnalité et de son, même de son personnage. Aujourd'hui, oui, il en a joué dans sa carrière. Et inconsciemment, tu veux garder ce qui a fait de toi ce que tu as été dans ta carrière. Et même après, quand il en parle. Donc, nous, c'est des trucs que nous, on voit. Mais on ne va pas se positionner en grand frère, en donneur de leçons. On va dire on a vécu la même chose. Et je comprends pourquoi tu le vis, si on parle entre guillemets à l'auditeur. Je comprends pourquoi tu le vis. Mais maintenant, pose-toi la question, comment tu peux faire un peu différemment pour performer un peu mieux? Parce qu'au final, l'objectif principal, si on parle de ceux qui écoutent des footballeurs ou des citoyens lambda, parce qu'il y a beaucoup de principes qui s'appliquent, dont on parle en BMC, qui s'appliquent à la vie de tous les jours, la performance, la mentalité, le comportement, le body language, ou ce que tu veux,
et
en entreprise,
faire, et comment
pareil.
Faire des bons choix de carrière.
Et comment faire des bons choix
parce
de carrière.
Par exemple, quand tu es en Angleterre, toi qui vis en Angleterre et qui suis à Première Ligue, bon, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure dans la Première Ligue, mais bon, alors parlons-en tout à l'heure, parce que j'aurais plein de questions justement là-dessus. Moi, quand je vois les effectifs avec 50 joueurs, 30 joueurs, bon, ok, il y a plein de joueurs, en fait, des fois je les revois, je dis, oh, putain, je l'avais complètement oublié, lui, mais il y a un an, c'était une bombe, tout le monde disait, il est fort, il va faire ci, il va faire ça, et en Angleterre, il y en a des tonnes, tu pioches les effectifs, tu prends les effectifs, tu regardes dedans, tu dis, c'est incroyable, t'as l'impression que tu rentres dans un marché avec plein de fruits et légumes, de la viande partout, c'est l'opulence.
C'est
et tu dis, mais
merde,
j'ai oublié, mais en fait...
Mais mince.
Comment tu vas leur dire, ouais, guidez votre choix de carrière, machin, mais les gars, ils vont dans ces clubs-là parce que ce sont des offres qu'ils peuvent pas refuser et qu'ils se mettent à l'abri pour leur
attends,
vie, tu vois.
Tu peux, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et je pense, je veux dire, je n'ai pas de souci, on n'a pas de souci. Mais maintenant, il faut assumer. En fait, moi, je vais, tout ça dans mon travail ou à travers le podcast, c'est pas te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu le fais, mais maintenant, il faut savoir pourquoi tu le fais et quand ça va.
Moi, je trouve ça bien que vous. Je ne peux qu'encourager les anciens joueurs et les gars qui ont connu surtout le foot en Angleterre. J'ai l'impression que c'est encore différent. Il y a tellement de choses. C'est vraiment que ces conseils-là, ils doivent être précieux. Et faut, moi, je ne peux que vous encourager à ne pas avoir peur, même de jouer les grands frères et de donner des conseils. N'ayez pas peur de ça.
On a un truc qui est lié à l'Angleterre, effectivement, sur la qualité aussi de la. De la production, de ce que tu produis en termes de podcast ou de commentaires. Je faisais référence à Micah Richards, à Thierry Henry, Johan Giroud aussi. Il y a plein d'exemples comme ça qui font
les mecs osent parler.
Il y a une habitude, il y a une habitude aussi, je te dis, de trash talking, un peu aussi de van, de blagues. Il y a aussi ça qui manque.
Ici, tu fais ça, mais
bah, regarde,
ça déclenche des trucs de fou.
On a fait un épisode avec Gaël Angoula, l'arbitre.
Ouais.
On a fait un extraordinaire l'épisode. Et on en parlait. Et moi, je comparais l'arbitre à la police, au rapport qu'on a à la police. C'est parce que dans la mentalité française, aujourd'hui, on a un problème avec l'autorité, on a grandi
bien
comme
sûr,
ça. Donc au final, l'arbitre représentant l'autorité, on va tout de suite s'opposer à l'arbitre. Je suis arrivé en Angleterre, je suis arrivé en mode petit français, donc au final, l'arbitre ou la police, naturellement, je suis en confrontation avec toi. Mais de la manière dont ils m'ont reformaté, l'arbitre dont il m'a parlé, l'arbitre, il me chambrait. L'arbitre, il me disait, oh là là, t'as pas été bon, là, t'as pris un vrai petit pont. Franchement, pourquoi tu parles? Franchement, allez, continue de parler. Et en fait, et même le, on va dire,
l'arbitre anglais, t'as dit ça?
Oui, bah, bien sûr, mais au final, on a compris.
Mais en France, on en a eu quand on fait ça, c'est pas passé du tout. Hein.
Après, c'est culturel, mais aujourd'hui, même le F-word, par exemple, quand tu le dis à l'arbitre, ah, fuck off à l'arbitre, ça passe. Et en fait, personne ne va se prendre la tête, et c'est comme ça qu'on se dit, mais on est tellement bien dans cette liberté-là, parce qu'on ne va pas s'arrêter au petit détail. Et quand on en parle dans le podcast, Ricardo qui a beaucoup, il a joué en Italie. Moi, je suis plus, enfin, il a traversé le monde. Quentin, il est parti aux États-Unis. Moi, j'ai fait ma carrière en Angleterre. Donc, ça fait, on a vraiment des prismes totalement différents,
ouais, des visions qui peuvent se compléter.
Et là, on se dit ah oui. Et des fois, on se dit ah ouais, j'aurais bien aimé jouer en Italie, en Angleterre.
On va continuer d'en parler dans quelques instants. On est là jusqu'à minuit, hein, tranquillement. J'ai pas donné le nom du podcast. Il s'appelle Ballon Main Corps. Alors, par contre,
vous savez pourquoi?
Bah ouais, parce que je me suis dit tiens, c'est chelou comme nom.
Non, il donne pas méga envie. Vous non, pas donner plus envie.
Mais non, bah non, à force de le dire, tu vas kiffer. Pourquoi? Parce que Monsieur Rabiot, qui était notre entraîneur des gardiens,
oui,
et surveillant, l'entraîneur des gardiens de Quentin,
et aujourd'hui l'adjoint de Deschamps,
aujourd'hui, à chaque fois qu'il entraînait ses gardiens, il disait, écoute, Coco, ballon main, corps. Et c'est un hommage qu'on a fait à Monsieur Rabiot parce qu'on est de la famille Clairefontaine, il est de Clairefontaine. Donc les gens qui connaissent, connaissent ballon, main, corps.
Il avait une bonne tête de CPO dans la Clairefontaine, Rabiot, quand il allait taper aux portes. Hein.
Ballon, main, corps.
Il y avait qui d'autre dans la génération 86 ?
Abou Diaby, Atem Ben Arfa, Habib Belaïd,
Habib Belaïd qui vient d'appeler le 32-16, qui a dit on l'appelle le dictateur parce qu'il est comme ça tout le temps, même dans notre assos. Voilà.
Génération 86, pourquoi j'ai 87 en tête pour Ben Arfa, moi ?
Non, parce qu'Atem, il avait un an d'avance. Atem, c'est le seul dans toute l'histoire de l'INF Clairefontaine qui est rentré un an d'avance. Donc
et
il est
87,
venu.
Benzema, Menez, toute cette bande-là.
Oui, nous, on est en 86, mais Atem, il est rentré un an en avance, donc il a fait ses trois années avec nous, parce qu'on ne pouvait pas le louper, la Fédération française voulait le garder, il allait partir je ne sais où. Donc, on a fait une exception pour M. Ben Arfa.
Qu'est-ce qui devient Abou Diaby ?
Abou Diaby, il est là, il est à Paris.
T'es en contact,
Paris. Ouais, on est des frères. Nous, on est une confrérie.
Et comment il vit, tu vois,
tu permets qu'on fasse une petite pub après, parce que là, déjà, la bourre de 5 minutes.
C'est un joueur fabuleux, mais sa carrière. Mais
on continue le débat dans quelques instants.
Son corps n'était pas fait pour ça, malheureusement.
Sans oublier la Ligue 2 et puis les infos avant les matchs de Ligue 1 de demain. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h25, Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là, Sébastien Basson vient avec nous ce soir, un point Ligue 2 Bordeaux, Dunkerque-Nico.
On est dans les 10 dernières minutes de 0 pour les Bordelais qui mènent, hein, grâce à Vipotnik et David Tachvili, ils vont s'imposer, on fait tourner, ça sent plutôt bon pour Bordeaux ce soir.
Liptonic, il s'appelle, tu te souviens de cette boisson, le Liptonic ?
Ça existe toujours, hein.
Ouais. Ça existe toujours, le Liptonic ?
Pas très bon.
PSG 95, ils ont ça en sponsor, Liptonic.
Exact. Auxerre Laval, Fred.
Finale de la Coupe de France, Strasbourg.
7 minutes à jouer. La JOCR a fait la différence en première période et se contente de gérer son avance. Il mène 3-0. L'Omami a marqué contre son camp, puis le doublé de Haillé. Et Laval a été réduit à 10 en fin de première période après l'exclusion de Bobichon. 3-0 pour la JOCR.
Guingamp, Xavier.
Et tu arrives à point nommé, 83e. Deuxième but pour le SCO d'Angers. À l'instant, Loïs Diony qui termine bien la belle passe venue de la gauche. Et il conclut parfaitement face à Enzo Basilio. Alors que Saint-Etienne venait d'ouvrir le score, Gilbert avait pris la deuxième place. Angers répond du tac au tac et reprend à son tour sa deuxième place. 2-1 pour le SCO. 14e but de la saison quand même pour Loïs Diony.
Edgar, les scores ont évolué dans les autres matchs.
Oui, ça bouge dans tous les sens avec l'égalisation. D'abord d'Annecy à Caen, signé Antoine Larose, alors qu'ils sont en infériorité numérique. Et dans la foulée, le but du 2-1 pour Caen, signé Romain Thomas. 2-1 pour Caen donc face à Annecy. 3 qui a aussi complètement renversé le match. Ils étaient menés 1-0 par Pau. Ils mènent 2-1 maintenant. But de Kylian Dong et Mohamed Diop. Grenoble qui est mené maintenant par Saint-Etienne. L'ouverture du score de Batoumi Nsika. Et puis QRM qui était mené 3-1 par Amiens, vient d'égaliser. 3-3 entre QRM et Amiens, le but de Samuel Lauric. Dans les autres matchs, 1-0 toujours pour Rodez face au Paris FC et 1-0 pour Valenciennes face à Ajaccio.
Et pendant ce temps-là, Arsenal mène désormais 5-0 face à Chelsea.
Oui, non, là, le déplacement est très Chelsea court, mais ils vont avoir les valises pleines quand même. Hein.
Oui, rappelons que c'est quand même une rivalité historique du foot anglais, là. Ah, ils leur mettent une belle branlée.
Non, Arsenal-Chelsea, pas tant que ça. C'est Arsenal-Tottenham.
Arsenal-Chelsea,
c'est pas, non, Arsenal-Chelsea, c'est pas une rivalité historique. Non.
Plus Chelsea-Tottenham que Arsenal-Chelsea.
Ouais. Non, Arsenal-Chelsea.
Et donc, moi, je dis qu'Arsenal, leur rival numéro 1, c'était Chelsea.
Ah non, c'est Tottenham.
C'est Tottenham, North London Derby.
Le derby du North London.
Ah oui.
On m'aurait menti.
Chelsea, le derby à la limite, c'est même avec Fulham.
Fulham, c'est vraiment un quartier.
C'est même presque un peu ridicule comme derby. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on a même fait on a tapé sur les doigts de Pochettino parce qu'il est parti à Chelsea. Les supporters de Tottenham, ils l'ont pas très bien pris.
Je peux les comprendre.
Bah, c'est surtout que personne ne devrait prendre Pochettino.
Tu suis un peu la Ligue 1 de Londres ou pas?
Un petit peu. Bah, étant supporter du PSG, je suis obligé. J'annonce la couleur.
Alors, je rappelle quand même que.
Étant supporter du PSG, je suis la Ligue 1.
Ah, pardon, j'étais encore dans la première ligue, j'ai pas compris la phrase, pardon, excuse-moi.
Je précise que tu es aussi international camerounais.
Oui.
On en a parlé pendant la CAN à plusieurs reprises. On a des débats sur Faris Moumbania.
Oh non, mais non, tu vas pas mettre ça sur le tapis. Stop.
Je disais parce que Gassé en a parlé aujourd'hui.
Mais non, mais on ne peut pas parler tous les jours de ce joueur.
Mais non, Gassé en a parlé. Il y a trois jours, il nous a dit qu'il nous est pensé à Jean-Pierre Papin. Aujourd'hui, écoutez, il a changé. Il a changé de joueur. On peut écouter Gassé parce que demain, Marseille joue contre Nice quand même. Match important.
Quand je l'ai vu la première fois, de suite, j'ai pensé à Brandao. J'ai dit à Ghislain qui avait entraîné Brandao. J'ai dit, ça c'est Brandao. Même gabarit, gaucher. Maintenant, c'est un jeune joueur. Il faut le faire travailler techniquement. Il faut le faire travailler dans les déplacements. Parce que c'est un garçon qui va vite. On ne s'en rend pas toujours compte. Parce qu'il se positionne très mal pour les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui. Mais malheureusement, on joue tous les 3-4 jours. Et je trouve que pour l'avoir fait démarrer un certain nombre de fois, il est souvent efficace en rentrant. Mais là, sur les deux derniers matchs, c'est vrai qu'il met le but qui a renversé le stade. Et là, à Toulouse, il égalise sur un geste magnifique.
On se rend compte quand même de la façon dont il vient d'en parler, parce que là il l'a enfoncé en gros. Il vient de dire, c'est pas joué.
Je reprends, il se positionne très mal dans les transitions.
Il faut le faire travailler techniquement. Il faut, enfin, mais par rapport à moi, ce que j'ai dit, mais moi j'ai rien dit sur lui. Moi j'ai juste dit, les amis camerounais de Gilbert ont dit que c'était pas une bonne recrue.
Ils ont dit ça, tes amis camerounais?
Et de là, tu as vu
sur place pour témoigner que le Cameroun était dans le même hôtel que nous.
Oui.
Voilà, moi j'ai pu discuter avec des gens effectivement de l'encadrement. Oui. Il n'a pas joué une minute à la CAN. Hein.
Ouais, c'est vrai que je l'ai pas. C'est pour ça que j'étais assez surpris qu'il ait réussi à avoir un transfert à l'OLA.
C'est ce que disaient les gens du staff camerounais. Mais bon,
après, c'est pas non plus. Enfin, il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles dans le football des fois. Après, dans la description de Jean-Louis Gasset. Pour moi, elle est assez correcte. Elle est correcte parce que c'est un joueur qui rentre et qui peut faire la différence parce que il y a des gens qui sont fatigués et son énergie, sa fougue, sa spontanéité et
sa puissance aussi parce que c'est un
gars. Sa puissance, c'est à partir du moment où les gens sont fatigués psychologiquement et physiquement et que tu rentres avec beaucoup de force. Donc souvent, tu vas avoir des comptes favorables, tu vas tenter des gestes un peu que tu n'aurais pas tenté peut-être au début du match. Et ça peut payer. Techniquement, on voit qu'il manque de QI football un petit peu, beaucoup même. Il n'est pas fini en tant que joueur formé.
Qu'est-ce que je suis gentil avec lui depuis le début. Mais quand j'entends les gens qui parlent de lui, mais moi à côté, j'ai rien dit.
Mais pour moi,
il
a des qualités.
Tout ce que tu dis est vrai. Bah oui.
Il a des qualités, mais qui sont aujourd'hui au plus haut niveau.
Qualité, il mange bien à la cantine.
Mais il a une spontanéité, voilà.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il est bien utilisé quand il rentre en jeu. Et ça serait trop court pour moi, trop short. De le faire commencer des matchs parce que ça nécessite d'autres qualités quand tu commences un match.
Moi, je pense que depuis le début, tout a commencé avec une blague. Et ça s'est envenimé l'after et certains et les réseaux là-dessus. Alors qu'en fait, on ne devrait juste pas beaucoup parler de ce joueur parce que c'est un remplaçant. C'est un gars qui est arrivé, qui, bon an, mal an, va essayer. Hein. La seule question qui peut se poser, c'est celle que tu as commencé à poser au début. Et c'est ce pourquoi, parfois, moi, je m'énerve un petit peu, c'est que l'OM, ou alors c'est. Peut-être parce que j'ai une trop haute considération de ce que doit être l'OM. Mais l'OM a enchaîné Vitinha, 32 millions. Il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème. Derrière, un été pas très bien géré, arrive un nouveau mercato et on me sort ce joueur. Donc au bout d'un moment, effectivement, tu as l'impression, il se passe quoi à l'OM là? Ils ont également droit au bonheur à avoir des mecs un petit peu, des joueurs eux aussi peuvent faire une trouvaille de temps en temps, un mec un peu fin, machin. Bon, ils arrivent avec ce gars un peu costaud. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Je ne vais pas répéter ce que Gasset a dit. Je crois que ce qu'a dit Gasset là, alors que c'est un entraîneur, normalement l'entraîneur protège vachement et il met des fleurs partout quand il parle d'un joueur. Là, il a mis de l'herbe morte et du fumier autour de lui sans s'en rendre compte.
Pour moi,
à côté, je suis hyper gentil. J'en prends plein la gueule à cause de ça, alors que je pose juste une question. Tiens, est-ce que l'OM... Il y a un problème avec les attaquants. Je veux dire, depuis 5 ans, le nombre de merguez qu'ils ont recruté devant, c'est juste une folie. C'est juste une folie.
Après, peut-être que l'OM... Bon,
dans le paquet, ils ont chopé Aubameyang.
Dans leur cellule de recrutement et leur manière de recruter, je pense que le recruter avec un autre joueur, ça aurait pas fait tâche. Maintenant, peut-être quand il est le seul, et là, on se dit, peut-être, c'est pas assez bien. Mais pour moi... Il a son rôle à jouer en tant que joker qui peut rentrer, qui peut bousculer une défense. Donc,
il peut faire joker, il peut mettre un but en plus. Là, en une semaine, il passe un peu pour le héros. Mais en d'autres temps, je ne sais pas si on va se mettre à la place soit du mec qui gère sa carrière, soit de l'OM. Enfin, c'est le gars, il arrive, il débarque, personne ne le connaît, machin. va dans un club moyen de Ligue 1, fais-toi les dents, progresse.
Oui, enfin bon, lui, on lui dit Marseille.
Et évidemment jeu. Qu'il y va. Bah, oui, évidemment voilà. Qu'il y va. Mais moi, ce que je trouve bizarre,
dire,
c'est que
pardon, je préfère venir à Grenoble, tu vois. Pas... Voilà.
Moi, et personnellement, après, j'en veux pas. Et après, on voit.
J'en veux pas à Wembanya, j'en veux pas. Je lui en veux pas. Par contre,
sûr que non, faut pas lui en vouloir à lui. Qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans, lui.
Sachant, on va dire ses lacunes et ses qualités. À quel moment tu vas pouvoir travailler sur ces lacunes quand tu joues tous les deux
autres? Mais c'est ça,
c'est ça mon truc.
Mais tu as absolument raison. Et ce que Gasset a dit d'ailleurs. Et il dit en fait, on peut pas. Il faudrait bosser avec lui. Déjà, excuse-moi, mais un mec, il arrive à l'OM et on dit il faut qu'il bosse techniquement. Moi, je pense que quand tu arrives à l'OM, t'es un peu fini normalement. Normalement, tu dois te finir dans des clubs inférieurs. Bon, ben là maintenant, on est. Écoute, moi de toute façon, je trouve qu'on.
Il peut se mettre au niveau. En fait, si ton équipe de base, quand tu arrives et que t'es entre guillemets un peu moins fort techniquement, tu peux te mettre au niveau de l'équipe dans laquelle tu arrives. Ça veut dire que si l'OM ou une autre équipe est vraiment techniquement à un certain niveau, tu vas te mettre au niveau, sinon tu vas dégager. Et lui, comme un autre joueur, je pense qu'il aurait pu avoir cet effet-là si l'équipe de l'OM avait un niveau technique vraiment qui allait lui permettre de progresser. Ils n'avaient pas forcément devoir le prendre en individuel, mais le groupe en lui-même va faire en sorte que, écoute, tu vas être plus concentré parce que tu veux pas passer, tu vois, pour un guignol, surtout à l'entraînement. Ah oui. Ça va vite. Et là, tu prends le niveau. Un peu comme Blaise. Blaise, il est arrivé au PSG, on disait que Blaise.
C'est vrai, t'as raison.
On disait que Blaise n'était pas. Mais Blaise,
il a énormément progressé au contact des autres.
Et là, après, il s'est devenu un joueur.
Il était dans un groupe tellement fort techniquement qu'il est obligé de se battre et de progresser, sinon il est.
Sinon, tu n'existes pas. Exactement. Et je pense que chacun à son échelle, après, Marseille ou PSG, c'est un peu.
Il y a un truc qui est intéressant dans les rapports qu'on a avec les supporters. Les supporters se plaignent énormément de ce qu'on dit de Wembanya, alors que sur le fond, on n'a rien dit ni plus ni moins que techniquement, il était très faible par moment, parce qu'il est parfois très faible, c'est comme ça. Et c'est marrant de voir que les supporters, et notamment à Marseille, qui sont assez pointus, qui aiment bien le foot, qui le connaissent bien, ne puissent pas dire le mec est formidable pour plein de raisons, parce que ses entrées, son punch, son envie sont formidables, et ne puissent pas faire la différence entre il est formidable parce que lui, vu son niveau, c'est déjà énorme qu'il en soit, je crois, 3 ou 4 buts et une passe D, et il n'est pas être capable de dire à côté, mais c'est vrai que oui, vous avez raison, techniquement, ça ne va pas.
Et la vérité,
Flo, passons à la suite.
La vérité, c'est que la grande majorité des supporters de l'OM disent la même chose. Ils ont kiffé quand tu as un mec qui te fait kiffer. Comme ils ont kiffé contre Benfica et le retourner et tout, évidemment ils kiffent, mais ils sont tous lucides. Après, c'est la minorité d'abrutis, les 15-20 ans sur les réseaux sociaux qui connaissent rien, qui viennent, qui insultent, qui harcèlent, et puis on croit que c'est la vérité. C'est du flan tout ça.
Pour finir sur Marseille, sachez que demain, il n'y aura ni Mbemba ni Sarr, ils sont forfaits pour jouer contre Nice. Par contre, Harit, il n'a pas participé à l'entraînement, mais rien de grave, il peut jouer. Voilà, pour le match face à Nice demain. Farioli, lui, de son côté, à Nice, dit que c'est un match méga important, Nice peut encore être deuxième, dit Farioli.
Il a raison d'être ambitieux, je ne sais pas s'il peut être deuxième, mais en tout cas, il a raison d'être ambitieux.
On devait parler de Bordeaux un peu plus tard, mais Nico, je pense, aura envie d'aller vite voir les joueurs et rira à la fin pour les réactions. Donc, on voulait faire une petite page bordelaise avec toi ce soir. Allons-y, on l'a fait là dans quelques instants, juste après une courte pause avec toi sur la fin du match. Il y a toujours 2-0
toujours 2-0.
Pour les Bordeaux. Qui a pris un carton là?
David Tebili, un jeune attaquant bordelais de 19 ans.
Non, là il y a un gars sur le banc là. C'est qui?
C'est Christophe Lelichon.
Ah bah oui, c'est ça.
L'entraîneur des gardiens de Dunkerque.
Exactement.
Bah, je ne savais pas que Lelichon était entraîneur des gardiens.
Moi non plus. Moi je t'avoue que je l'ai appris à l'échauffement tout à l'heure. Je l'ai reconnu à l'échauffement, je me suis dit, tiens, mais c'est Christophe Lelichon.
Comme il est à Londres, il s'est dit Dunkerque, c'est pas
trop loin. Mais je l'ai vu à l'écran, j'ai dit, putain, il me rappelle quelqu'un.
Bah oui, pareil, c'est
bon. J'ai attendu qu'il s'y fout là. Comment il s'est retrouvé là? C'est bizarre quand même.
Je sais pas, Demba.
Avec le CV du mec, il se retrouve là, il regarde Dunkerque.
Oui, c'est vrai que c'est Dembaba qui est le boss à Dunkerque désormais. C'est la connexion.
La connexion de Chelsea. La connexion de Blues. La connexion
Frérot,
ça.
La connexion Frérot. Allez, à tout de suite pour Bordeaux. Un petit point score, me demande Jérôme Thomas.
Il y a eu un sixième but là.
Donc 2-0 pour Bordeaux face à Dunkerque. On est où en Auxerre, Fred?
Terminé, la victoire finale, elle est au Serroise 4-0. L'Omami contre Sancan, le doublé de Haillé et le but de Danois en toute fin de match. Bobichon est expulsé du côté de Laval. La Géosserre gagne, mais ça reste serré. Ça nous annonce une fin de championnat palpitante.
Très bien. Guingamp, rapidement, où en est-on?
Il reste 10 secondes et Angers va s'imposer ici à Guingamp 2-1 et ça reste très serré parce que Angers suit et n'est qu'à 3 points de la J. Auxerre, les buteurs Raoul Isola Diony contre un but de Guillaume pour les Guingampais. C'est terminé dans 5 secondes. Libre.
Guillaume, ok, bon, on remercie Guillaume. Edgar, montre-nous que tu sais faire plus vite que Xavier.
C'est terminé à Bastia. Score final 2-0 face à Concarneau. Victoire aussi 2-0 de Saint-Etienne à Grenoble. C'est presque terminé à QRM. 3-3 entre QRM et Amiens. 1-0 pour Rodez face au Paris FC. 2-2 entre Troyes et Pau. L'égalisation de Pau dans les derniers instants. Et 1-0 pour Valenciennes face à Ajaccio.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
22h41, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Sébastien Basson avec nous ce soir, qui est devenu donc entre autres activité podcasteur. Donc n'oubliez pas d'aller écouter, maintenant qu'on en a fait une bonne promo. On le refera d'ici minuit. Ballon, main, corps. Dernier point Ligue 2, il y a encore des matchs en cours, je crois. Edgar, qu'est-ce que tu as encore en cours là ?
QRM Amiens, c'est la 98e minute, toujours 3-3 entre QRM et Amiens. C'est terminé sur toutes les autres pelouses, hein. Score final 2-0 pour Bastia face à Concarneau, 2-1 pour Caen face à Annecy, 2-0 pour Saint-Etienne à Grenoble, 1-0 pardon, pour Rodez face au Paris FC, 2-2 entre Troyes et Pau, 1-0 pour Valenciennes face à Ajaccio. Et donc c'est presque terminé, hein, entre QRM et Amiens. On a dépassé le temps additionnel, 3-3, c'est terminé à l'instant. Voilà, 3-3 score final entre QRM et Amiens.
Nicolas Paul aussi toujours avec nous. Tout à l'heure dans Génération After, vous avez parlé un petit peu déjà de Bordeaux. On voulait revenir nous un peu plus longuement ce soir. Bon, on va pas revenir sur les histoires de papier toilette et de tondeuse et de pompe, je sais pas quoi.
Bon, non, mais le problème, c'est que tout tourne autour de ça, parce que derrière ces anecdotes rigolotes,
on parle de l'avenir en fait.
Mais derrière ces anecdotes rigolotes, enfin de l'extérieur, parce qu'elles sont ridicules, donc tu te marres. Mais ça traduit juste une chose. Et au fond, les débats sur Bordeaux, ça dure 5 minutes, c'est il n'y a plus d'oseille et la personne qui dirige le club ne va pas en rajouter. Il nous fait croire qu'il cherche un actionnaire minoritaire, mais il n'y a personne qui va venir. Il a eu des propositions de rachat de club, il n'a pas donné suite. Et aujourd'hui, la seule question, c'est tu veux faire quoi en fait ? Tu vas t'en aller en douche, tu vas laisser pourrir le club, qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, il s'est tellement engagé que je pense qu'il va faire comme il a toujours fait, à savoir laisser pourrir et s'écarter progressivement. De toute façon, personne ne le voit plus, il ne parle plus à personne, il est nulle part. Et il va laisser pourrir le club. C'est tout.
Je ne suis pas si sûr, parce que je pense que si l'histoire Gérard Lopez à Bordeaux, ça se termine comme ça se termine très souvent, c'est-à-dire avec un club là qui disparaît, hein, clairement, parce que si Gérard Lopez s'en va, alors qu'on annonce un déficit de 50 millions d'euros, sans repreneur, après avoir refusé des offres, je pense que c'est terminé pour lui dans le monde du sport. Alors déjà, il y a deux choses, c'est que moi, à mon avis, je suis intimement persuadé que Gérard Lopez veut récupérer un peu de sous dans tout ce qu'il a investi, c'est-à-dire que cet été, il a quand même mis 40 millions sur la table, hein, de ses sous. Il s'en est déjà fait rembourser une petite partie, mais on est loin quand même d'avoir récupéré la mise de départ. Et puis voilà, la deuxième chose, c'est aussi l'ego de Gérard Lopez. Et moi, je suis intimement convaincu qu'il a encore envie d'avoir des challenges dans le sport. Et si à Bordeaux ça se termine, c'est mort pour lui. Donc voilà, ça c'est de données.
Vous le voyez souvent ou pas ?
Non, on le voit plus. C'est difficile d'échanger avec lui.
Plus personne.
Vous parliez tout à l'heure de son entreprise de communication qui gère son image. C'est plus l'image de Gérard Lopez que les grandes décisions du club, hein, parce qu'il y a un service de communication interne au club. Même eux, des fois, ils sont désabusés quand ils nous répondent. Maintenant, il y a cette histoire de sous, de tondeuse qui est assez révélatrice. Nous, on a eu des infos aussi qui nous sont parvenues en nous disant que les médecins vacataires du club, vous savez que dans un club, il y a des kinés qui sont salariés, des médecins qui sont parfois salariés, mais il y a beaucoup de clubs qui font appel à des médecins extérieurs qui sont là tous les jours, mais qui ont leur cabinet aussi. Des vacataires sont en grève au Girondins de Bordeaux parce qu'ils ne sont plus payés depuis le mois de février. Donc voilà, ça touche même la partie médicale. Maintenant, ouais, tu te demandes. Le seul truc pour l'instant qui bouge pas, c'est que les joueurs sont payés et l'administratif est payé. Il n'y a pas eu de retard de paiement à ce niveau-là. Mais là où je rejoins complètement Daniel, en fait, c'est que c'est impossible de comprendre la stratégie de Gérard Lopez. Le président de Bordeaux dit actuellement qu'il ne veut pas se séparer du club. Il refuse des offres dans tous les sens. Mais il ne parle pas, on ne sait pas où va le club. C'est un truc de dingue. T'es 14e de Ligue 2, il n'y a personne qui parle. Ton directeur sportif est un fantôme, il est écarté des grandes décisions. À chaque fois qu'on le croise, et pour le coup, je le défends un petit peu parce qu'il est complètement borduré désormais à Admar Lopez, son discours c'est de dire ouais, mais moi tu sais, j'y suis pour rien, il n'y a plus d'argent. Donc voilà, tout le monde se dédouane. Tellement, tout le monde essaie de s'en sortir
un petit
peu. Il n'est
pas défendable, il est totalement incompétent. C'est de toute façon. Voilà. Oui, ok, il n'y a pas de sous, mais de toute façon, il n'a jamais rien fait. L'argent, quand il y en avait, il a été dépensé n'importe comment.
Je suis d'accord
la
avec toi.
La gestion du club a été montée n'importe comment dans le tissu, que ce soit économique ou social, dans le rapport avec les supporters. Aujourd'hui, on est juste face à un club en train de crever. La guerre entre les supporters, elle est terrible.
Bah là, il y a une image d'ailleurs, là tu vois sous mes yeux. Alors, les ultramarines étaient en grève ce soir. Ils sont rentrés à la 15e minute, ils se sont tués tout le match. Et le deuxième groupe de supporters qui se tape régulièrement sur la tronche avec les ultramarines, machin, la Northgate, là, ouais, non, viennent là, d'avoir un moment d'échange avec les joueurs. Voilà, là ils sont en train de les applaudir. Il y a une guerre interne entre ces groupes de supporters, à tel point que la préfecture voilà, s'inquiète vraiment de la suite. Là, je peux vous dire que le dispositif de sécurité autour de Bordeaux-Dunkerque, c'était dingue.
Et la rivalité entre les deux, c'est gravissime.
Ça peut aller très loin.
Il y a eu des blessés. On redoute, les autorités sur place redoutent même des choses plus graves, voire un mort.
T'as un entraîneur, pour revenir au sportif, qui est détesté de toute la Ligue 2. Lui,
il est fini. Même Lopez le soutient plus. Même Lopez privé dit que c'est une pipe.
C'est compliqué. C'est le pauvre, là où moi je défends un peu Albert Riera, c'est que lui, il arrive en octobre. On lui dit t'inquiète pas, Albert, franchement, là, le mercato hivernal, on va arroser. Tu vas avoir des joueurs pour ton projet. T'inquiète, au final, encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter, donc il n'a pas de joueurs qui arrivent, ils font même partir des joueurs. Donc non, mais tout est très compliqué. La seule chose qui est plutôt bonne à Bordeaux cette année, c'est que le groupe ne lâche pas. Tu peux être un joueur là et te dire non, mais ce club, avec tout ce qui se passe depuis 5-6 ans, c'est terminé, j'essaie de sécuriser mon avenir ailleurs et je m'en fous du collectif. Et non, à l'image du match de ce soir, pour le coup, ils essayent de se battre ensemble.
Ça,
et
c'est vrai.
Et
ça,
c'est un groupe qui vit plutôt bien. Et moi, je trouve ça dingue hein, quand même.
Ça, c'est vrai. Et tu fais bien de le dire, c'est même assez dingue parce qu'ils pourraient être en perdition et dans les profondeurs en se laissant mourir. Néanmoins, ça ne va pas empêcher une chose. C'est que la plupart des joueurs, étant donné la situation économique du club, vont tous vouloir se barrer. Parce que la prochaine étape, il faut dire la vérité, et c'est ce qui s'est passé dans tous les deals de Gérard Lopez, c'est qu'après la tondeuse, après le PQ, après le médecin, c'est les joueurs qui bientôt seront plus payés. C'est
oui,
ça
oui,
la vérité.
Oui, bah oui, c'est
et les,
ce
joueurs,
qu'on
si, et les joueurs et leurs agents, je pense qu'ils sont un petit peu malins quand même. Bah, ils vont probablement se dire qu'il faut faire attention et il faut vite partir. Parce que la prochaine étape, c'est celle-là. Et c'est pour ça que je dis que le club est en train de crever.
Là, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'il remet au pot. Tu vois, Daniel, il remet au pot un peu tous les mois pour subvenir vraiment aux moyens. Mais on est dans du minimaliste complet. Hein. C'est-à-dire que c'est voilà, je paye les joueurs parce que sinon, il sait que c'est terminé. Et voilà. Mais il n'y a plus aucune dépense qui sont faites au Hayan. J'imagine même pas la préparation du prochain mercato estival. On n'en est même pas là. Le projet de la saison prochaine, on n'en parle même pas. Le futur passage devant la DNCG, voilà, je vous dis 50 millions de déficit quand t'es les Girondins de Bordeaux. T'étais le plus gros.
Mais ça peut mal tourner de ce côté-là. Il peut y avoir une rétrogradation. Il n'y aura plus l'oseille. Je te dis, le club peut crever à la fin de cette année.
Moralité, il fallait peut-être faire confiance à Didier Quillot à l'époque et pas être naïf et soutenir Lopez comme l'ont fait les supporters.
Comme d'habitude, il faut écouter la.
Vous savez bien pourquoi Didier Quillot a été éjecté du projet de reprise des Girondins de Bordeaux, parce qu'il y a eu un vrai lobbying des ultramarines.
Qui maintenant se retrouve à faire la grève.
Qui se retrouve à faire la grève parce qu'ils sont obligés maintenant désormais.
On nous a accusé de faire ami-ami, alors que nous, tout ce qu'on souhaitait, c'est être objectif et penser au bien de Bordeaux, parce qu'on savait comment ça finirait. Voilà, il a juste fallu. C'était quoi, il y a 3 ans maintenant, cette histoire?
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, comme d'habitude. Hein, nous, notre problème, c'est d'avoir raison avant les autres.
Hein. Bon, Nico, reviens s'il se passe des trucs à la conférence de presse.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que ça va être assez calme. Ils ont gagné, donc là.
Ouais. Bon, je sais jamais s'il y a une annonce.
Il peut donner une petite leçon.
Si tu croises Gérard Lopez, tu peux lui dire qu'il.
Ah, il est pas là ce soir.
Il est jeune, là.
Le dernier match auquel il a assisté, je crois que c'était à Annecy. Annecy-Bordeaux.
Donc ça, il vient au match à l'extérieur pour pas, en gros,
pour pas croiser
les supporters.
Je pense pas que ce soit ça. C'est juste qu'il vient pas très souvent.
Mais il s'en cague. Il en parle jamais.
Il parle jamais. Mais vous savez que nous, c'est un vrai problème dans ce club pour travailler. Tu ne parles à personne. Mais même en off, il n'y a personne qui te parle. Nous, des fois, on nous reproche, la presse, d'être assez offensif vis-à-vis du club. Ouais, on nous reproche cet article. Mais on leur dit, mais personne ne nous parle. On a des infos qui remontent, on essaie de se les faire confirmer. La direction ne te répond pas. Le directeur sportif ne te répond pas. Le seul, le pauvre, et c'est le cas à Bordeaux depuis 5-6 ans, qui est à chaque fois face à tout ça, c'est le coach. tous les coachs qui sont passés ces dernières années.
Baptiste Le Caplain quand même.
Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Non, mais le seul mec,
lui aussi il a pris du recul. Hein.
Le seul mec à chaque fois qui doit répondre aux questions, mais surtout du coup, parce que nous, le seul interlocuteur qu'on a, c'est l'entraîneur et derrière les joueurs.
D'ailleurs, c'est un peu c'est pour fou. Ça que Riera il a quelque part pété les plombs dans cette saison. C'est-à-dire qu'on peut lui reprocher plein de trucs. Il est très sûr de lui. T'as l'impression que c'est un théoricien du foot alors qu'il est une équipe un peu à la dérive et un club à la dérive. Mais là où t'as raison, c'est que. Quand t'es coach et que t'es le premier, que t'as personne pour te pour faire le pour te protéger en tant que directeur sportif ou président, c'est très très dur pour un coach. Arriver dans cette pétodière là et là où t'as raison, avoir quand même un groupe, avoir maintenu au moins ça, qui arrive à jouer ses matchs. Bon voilà, moi c'est vrai que t'as pas envie de taper sur Yara, même s'il a fait des erreurs, même si t'as l'impression que il entraîne le Barça 2015 et qu'il te parle des matchs parfois, tu te dis voilà, attends, t'es juste en train d'essayer de maintenir une équipe en Ligue 2. Mais il faut comprendre aussi, ton résumé de la situation est intéressant parce que c'est vrai qu'au quotidien, quand tu es coach et que tu dois gérer ça mentalement, c'est pas très facile.
Ah, mais c'est dingue! Le directeur général qui gère un peu l'opérationnel ne nous répond pas. Voilà, on n'a vraiment aucun interlocuteur.
Parce que c'est vrai qu'à chaque match, c'est les coachs et c'est le coach qui vient en
compte.
Tu
sais que Gérard Lopez a ses canaux de communication pour communiquer via certains médias, certains journalistes, certains aussi influenceurs sur Twitter qui sont très présents.
Quel journaliste honnête peut encore écouter le blabla de Gérard Lopez?
Ouais, je sais pas, Daniel. Franchement, ça c'est compliqué. Moi, je suis pas là pour juger la confiance.
Sud-Ouest, c'est fini. Sud-Ouest, ils sont pas de mèche avec lui. Est-ce qu'il y a encore un mec à l'équipe qui est pro Lopez?
Je peux pas me prononcer sur ça.
Est-ce que sur Twitter, c'est il y a très longtemps que je fais plus attention à ça, mais comment il s'appelait, la machin Diabaté, là,
oui.
Il est encore dans ses jupons?
Je sais pas, en tout cas, moi je trouve qu'il y a certains tweets de certains influenceurs bordelais qui.
Mais c'est qui les influenceurs bordelais?
Voilà, qui pèsent.
Dis-nous les noms parce que je vois plus là.
Oui, bah voilà, moi je pense que Diabaté 33, des fois, il a des tweets où tu poses des questions et tu as l'impression d'entendre la communication du club. Après, je n'ai pas d'informations, ça ce n'est que mon impression personnelle.
Sur X, juste sur le célèbre Claude Pèze qui est très drôle, dit ce soir un truc que je trouve très juste. 3 points qui te rapprochent du match le plus important de la saison, Bordeaux vs DNCG.
Ouais.
Exactement. Merci Nico.
Ciao les gars.
Tu reviens quand tu as besoin.
Bien évidemment,
on reparle Ligue 1 dans quelques instants, puis ensuite foot anglais avec Julien Laurence, avec Sébastien Bassong, avec vous tous au 32-16. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h54, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Sébastien Bassong qui nous écoutait parler de Bordeaux. C'est vrai que vu d'Angleterre, tu donnes. Les clubs dans cette situation-là en Angleterre, ça n'existe pas. Il y a tellement d'oseille, disons.
Il y a tellement d'oseille et franchement, ça fait de la peine. Après, quand j'entends, je regarde de temps en temps, je tombe sur les clubs mythiques du championnat de France, comme ça. Et oui, vu de un peu plus loin maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai des potes à moi qui ont joué à Bordeaux et qui, on en parle de temps en temps. On a eu Nicolas Maurice-Bellet qui est venu dans notre podcast il y a 2 semaines. On en a un peu parlé. Donc ouais, c'est dommageable mais moi ça me surprend pas quand vous en avez parlé, quand je vois vraiment le tout ce qui se passe autour, la gestion, c'est humain et ça s'est déjà passé ailleurs,
Sébastien,
et ça se passera encore.
Là on parle d'un cas extrême parce que là vraiment c'est un club qui est peut-être en voie de disparition, mais je suis désolé, en première ligue, OK, il y a l'oseille qui coule à flot. Mais moi, si je suis supporter de Manchester United ou de Chelsea, moi, je suis catastrophé, quoi, par ce qu'ils font de ces clubs-là. Moi, quand je vois la gestion de ces clubs, les recrutements à coups de millions, la façon dont on empile les joueurs, l'image du club qui est dégradée, qui ressemble plus à rien. Moi, quand je vois Chelsea se prendre la valise qu'ils ont pris ce soir contre une équipe faite à la base de petits joueurs qui ont progressé avec un super coach, qui sont en train d'écrire une nouvelle histoire. Mais moi, je suis supporter de Chelsea, mais je dors pas cette nuit, quoi. C'est horrible. Le propriétaire, là, votre grand frérot là, qui arrive, là, il met des millions dans tous les sens. Imagine, on a regardé, mais
c'est
tu regardes la liste, tu vois, t'as Sterling, il est rentré comme un Kidam.
Ouais.
Sterling, il est rentré comme un.
Voilà.
Il rentre comme un Kidam. Il y a des joueurs qu'on a oubliés, ils sont dans l'effectif, ils y sont plus. Ça ressemble plus à rien, t'as plus de. Je vois même pas quel est le projet, j'arrive pas à lire. Il y a un coach qui est arrivé. Bon, évidemment, il va pas refuser le chèque et l'image que c'est de diriger Chelsea. Mais tu vois bien que Pochettino, il fait rien. À part faire des allers-retours sur le bord de la touche, les bras croisés comme ça. Qu'est-ce qu'il peut gérer? Comment tu peux gérer 50 joueurs, quoi qu'il en soit?
C'est différent. C'est différent de dire que Pochettino ne fait rien. Parce que je connais très
pas.
Bien.
Quand il fait peut rien, pas, parce qu'il peut pas. 50 joueurs, comment tu gères?
Je pense que la méthode Pochettino aujourd'hui, pour l'avoir bien connue et l'avoir vue et après connue, elle est, je pense, un peu aux antipodes avec le groupe et tout ce qui s'est passé avec Chelsea. Quand on dit donner du temps, on dit souvent dans le football donner du temps. Pochettino, il a une vraiment, quand on lui laisse la main, là, il essaye de créer une transition très forcée. Parce que tu parles de Sterling, oui, il va falloir passer.
Mais la transition, si l'année prochaine on lui enlève 20 joueurs déjà pour qu'il puisse travailler. Ouais,
il essaye. En fait, il essaye de forcer à son niveau une certaine transition en essayant d'impliquer des joueurs que, donc il l'a pas demandé, qui n'ont pas vraiment son ADN parce qu'il a une ADN particulière, surtout
comme
en Angleterre.
Comme tous les coachs,
Il a envie d'avoir une ligne directrice. Il a sa ligne directrice maintenant avec le nombre de joueurs qu'il a. Je pense qu'il subit énormément les choix économiques du club. Après, quand tu as parlé de Manchester United et de certains clubs,
ils
sont à la dérive parce qu'on a comparé avec Bordeaux.
Non,
un cas extrême.
Comparaison, la Bordeaux, ça n'a rien à voir. Ils sont
aujourd'hui.
En train de jouer,
mais... Je pense que le football, c'est cyclique et ils ont tapé tellement haut et le football, quand on en parlait avec Nicolas Villas, c'est tellement jeune le monde du football qu'aujourd'hui, ce que Manchester a fait pendant un certain nombre d'années les a mis la barre tellement haute qu'aujourd'hui, pour rester au même niveau et pour le cycle, il est difficile à retrouver.
Et Sébastien, le cycle, je le comprends, mais on parle d'un cycle de victoire, de positionnement. Là, il ne s'agit pas de cycle. Et là, on parle de clubs qui ne sont même plus en Ligue des Champions, qui, au niveau européen, n'existent plus, n'ont pas une bonne image, ont une politique sportive qu'on ne comprend pas. Parce que cyclique, si tu es supporter d'un club, tu suis bon, ton équipe, elle ne gagne plus. Mais quand tu la vois sur le terrain, parce qu'elle n'a pas de bons joueurs, parce qu'ils ont raté un ou deux recrutements, mais bon, elle ne te fait pas honte. Parce que l'équipe, elle est là, bon, ok, peut-être que dans 5 ans, on se remettra à gagner. Là, je trouve que ça ne ressemble plus à rien. Moi, je n'aime pas ce football-là. Le football de Manchester United ou de Chelsea, ça ne me plaît pas.
Tu parles, regarde, moi, pour moi, il y a deux choses différentes. Tu as dit, l'équipe, elle ne gagne plus parce que le cycle fait que tu n'as pas les bons joueurs. Pour moi, là, c'est...
Là, ça, je l'accepte, ça.
Non, mais c'est pour moi, le cycle, le club fait partie du cycle. Parce que dans la stratégie de recrutement, aujourd'hui, l'impact qu'avait, par exemple, on parle de Sir Alex Ferguson, c'est pas juste un impact sur son 11 de départ ou sur ses 22. C'est un impact dans le club qui
la
faisait...
La politique, tout.
En fait, il a réussi à mettre la main sur un club à un moment donné où il était assez fragile, assez vulnérable, et on lui a donné ce quitus pour aller faisant ce que tu veux, et ça a fonctionné. À partir du moment où il s'est retiré, il a retiré son aura. Et l'aura, elle est dans tout le club.
Tu vois ça, rien ne t'empêchait de prendre des gens compétents. Tu n'étais pas obligé.
Ouais, mais ça ne s'achète pas. Enfin, en fait, cette aura, aujourd'hui, la compétence, c'est une chose.
Ferguson, pas obligé, aujourd'hui, année après, d'empiler des mauvais joueurs, faire Ferguson, des mauvais choix.
Et Julien, qui vient d'arriver, pourra m'en parler, mon gars. Quand Ferguson est arrivé, il n'avait pas forcément tout le crédit, parce qu'il n'est pas arrivé avec... Il arrive avec un petit peu de crédit, mais il a construit son crédit sur son aura, avec son aura. Et c'est ça qui lui a donné vraiment la mainmise. Et après ça,
c'est compliqué de comparer. Ce que tu décris là, c'est un projet.
Précise que Julien dont parle Sébastien, c'est Julien Laurence qui est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Comment ils t'ont appelé hier? J'ai beaucoup aimé ce nouveau surnom, le seigneur de l'île de Ré.
Le dernier auditeur.
J'ai trouvé ça pas mal. Mais bon, c'est une autre époque. Mais quand Alex Ferguson arrive, l'aura dont il parle, c'est qu'il a gagné, ça doit être la Coupe des Coupes avec Aberdeen, c'est ça
contre le Real Madrid.
Contre le Real, donc entraîneur écossais. Les entraîneurs écossais, c'est tout ce que la Première Ligue, tout ce que ton île là-haut a fait de bon au niveau entraîneur, c'était les Écossais, parce que les Anglais ne savent pas entraîner.
Notre île,
c'est vrai aussi. Hein?
Notre île.
Ah, je te mets dedans, toi.
Tu sais.
Je te mets dedans aussi, pardon, je ne savais pas. Bon.
D'ailleurs, t'as la nationalité anglaise?
Non, j'ai pas la nationalité anglaise, non. On me l'a proposé, je l'ai refusé.
Donc lui, il construit sur des années, mais assez rapidement, ouais, ça ressemblait à quelque chose. Mais au moins, il y avait un projet. Là, si tu es capable de m'expliquer quel est le projet de Chelsea ou de Manchester United, moi, je ne le comprends pas.
Ah non,
pour moi, c'est des clubs qui sont comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veulent les propriétaires de ces clubs. Je ne le sais pas.
Si eux, ils le veulent vraiment.
Ou ils le savent vraiment.
Je ne sais pas s'ils le savent. Ouais. S'ils savent ce qu'ils veulent, je ne pense
Manchester
pas.
Manchester City, quand les mecs arrivent, qui foutent tous les Catalans. Ok, vas-y, on file les clés. Faites-nous ce que vous voulez, la bande, là. Bigger Einstein, Soriano, Guardiola. Allez-y. Bon, ça donne ce que tu vois depuis des années. Ils sont tout le temps en haut. Mais au moins, tu comprends la ligne.
Et en plus, avec Manchester City, ce qui est assez étonnant par rapport à des investisseurs comme ça, avec du temps. Parce que tu ne gagnes pas tout de suite. Et Guardiola, pas tout de suite. Tu acceptes aussi ce temps-là, ce qui est assez curieux par rapport à des investisseurs d'aujourd'hui.
Le combien pire avec les autres. Combien de gagne le titre, le fameux, à la dernière minute là, parce
2012.
Oui, non, mais combien de temps après l'arrivée?
Trois ans.
Trois ans, Ils ont attendu 3 ans, mais dans un contexte concurrentiel comme l'APL, 3 ans, c'est bien.
Oui, non, c'est bien, ans, mais dans des contextes concurrentiels en général, on regarde les Qataris avec Ancelotti, ce qu'ils ont fait en arrivant à Paris.
Ouais, non, mais
ils ont été capables d'attendre ne serait-ce que 6 mois de plus, un an, pour, alors qu'Ancelotti, d'ailleurs, les a dit, mais c'est des grands malades, moi je m'en vais. Et sur City, ce qui est intéressant, enfin, sur les autres, je veux dire, sur ce que tu dis sur Chelsea et Manchester, c'est justement que, vu l'exemple que leur a montré City, tu pourrais imaginer qu'ils se donnent du temps avec un projet un peu plus cohérent plutôt que d'acheter juste d'empiler des joueurs comme ça dans les mercatos. C'est vrai que c'est assez étonnant.
Mais quand t'as des gens compétents et des gens incompétents, ben ça fait une grande différence. Hein.
Mais on partait de la France où on dit Bordeaux en perdition. Hein. Mais je trouve que même en Angleterre, le pays à de l'oseille, le pays du foot, hein, il y en a une tripotée de clubs mal gérés, de recrutements faits à l'envers.
Quand tu dis que par rapport au modèle de City, les autres auraient pu copier, et c'est là où l'être humain lui-même, l'ego de l'être humain, l'ego de la rivalité va faire en sorte que on va pas s'inspirer de ce que City fait, on va rester assez têtu, et c'est là où le bail blesse pour moi. C'est pouvoir vraiment dissocier ce truc de je suis Man United et je suis Man City et je peux pas copier parce qu'ils ont réussi avant, et se dire ok, vraiment, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est pas tout le monde qui peut. Tu peux vouloir certaines choses, mais tu parles de compétences, tu parles de bonnes personnes au bon endroit. Il y a un système, peut-être les Catalans, tu as parlé des Catalans, on a parlé de tout un tas de choses. Mais après, il faut regarder la personne. Faut parler. Moi, je pense vraiment, il y a le projet, mais il y a la personne qui porte ce projet. Ferguson, quand j'arrêterai pas de parler de Ferguson, au-delà qu'il soit écossais, qu'il ait gagné contre le Real Madrid, la personne qu'il est, en tant que personne, il a ce truc spécial qui va lui permettre, après, si on lui donne ce temps, de construire ce que... Et aujourd'hui, je pense qu'aucun de ces clubs-là n'a réussi à avoir cette personne qui a cette aura naturellement, tu vois, de manière naturelle, authentique et vraie. Ce qui fait que à ce niveau-là, ça pardonne pas.
Dans un instant, on va inverser un peu le reste de l'émission. Il y a plein de trucs de Ligue 1 que j'ai pas dit encore là. Lucien Riquet notamment s'est exprimé aujourd'hui. On va se regarder pour tout à l'heure.
Ligue 1, Julien, il a beaucoup aimé parler Ligue 1.
Donc Angleterre et Ligue 1 au programme. D'ici minuit, la discussion continue. À tout de suite.